Pauline Pucciano, Titania 3.0. Chapitre 17, l'Oriflamme. Mito avait vérifié 100 fois, et il avait l'habitude d'être traqué depuis l'époque de Blondion. Il n'était pas suivi. En remontant à la surface, il avait débouché sur le périph, non loin de l'entrée qu'ils avaient prise pour descendre. Là, il s'était fondu dans la foule, comme l'invisible qu'il était. Il n'avait rien qu'on pût voler, il ne valait pas de rançon, il était juste une silhouette boiteuse parmi d'autres, et il était ressorti sans éveiller l'intérêt de personne au niveau de la porte de Clignancourt. Pour aller jusqu'au quai de Bercy, il lui fallait en gros prendre le boulevard Barbès, le boulevard Magenta et le boulevard Beaumarchais. Une trotte qui risquait de lui être sinon fatale, du moins presque impossible dans l'état où se trouvait sa jambe. Jean et Titania seraient sans doute malgré tout plus rapides. En admettant qu'ils ne se soient pas fait prendre par la police, il espérait qu'ils avaient eu le bon sens de ressortir par le métro et non par le périph. Il était un peu inquiet à ce sujet, parce que l'un comme l'autre n'avait aucune expérience dans le domaine de la survie en milieu urbain. Mais il n'aurait fait que les ralentir, et il n'avait pas eu le choix. Mito s'efforça donc de penser qu'ils allaient trouver le moyen de rejoindre le quai de Bercy sans se faire repérer, ni par les caméras de surveillance, où la police avait certainement programmé un logiciel de reconnaissance de leur visage, ni par les hommes de main de Morgan Corp. C'était faisable. Il fallait porter un couvre-chef, des lunettes, tout ce qui pouvait déformer le visage, talonner les passants comme si on marchait avec eux, faire semblant de leur parler, changer de trajectoire de manière brusque, entrer dans une boutique par une rue et en sortir par une autre. Prendre le périph' quand c'était possible, mais cela ne le serait pas. Mitou s'assit un moment pour faire la manche à l'entrée d'un restaurant, et glana assez vite quelques restes emballés dans un sachet où était écrit, en joyeuses lettres vertes et rouges, « Soyons solidaires ». Cette mode s'était répandue dans la plupart des restaurants devant l'explosion du nombre de HR. Les clients, titillés dans leur mauvaise conscience, appréciaient cette charité qui ne leur coûtait rien. Et Mito se nourrissait presque exclusivement de cette manière, du moins quand Jean ne lui payait pas un bol de nouilles. Après s'être restauré, Mito regarda sa jambe. Elle avait connu des jours meilleurs, à n'en pas douter. Il fallait reconnaître quelque chose à Morgan Corp. Durant la préparation de Mito, il lui avait fait un soin miracle qui lui avait permis de tenir plusieurs heures. Malheureusement, les effets de l'injection locale n'avaient pas duré. Si la gangrène avait été enrayée, il restait aujourd'hui des plaies à l'aspect dégoûtant qui le lançaient. Il avait déjà beaucoup trop marché depuis la veille et sentait qu'il ne pourrait pas faire beaucoup plus. Comment diable allait-il se rendre jusqu'au quai de Bercy? Cette question en apparence insoluble ne l'inquiétait pas tellement, pas plus que l'état de sa jambe d'ailleurs. Mito avait l'habitude des problèmes. Les résoudre faisait partie de son quotidien et il avait une sorte de génie pour trouver des solutions, une imagination qu'il n'avait jamais prise en défaut. Il suffisait de s'asseoir un moment et de réfléchir. Les sachets solidaires et les idées lumineuses finissaient toujours par tomber dans son escarcelle. Tout en mangeant avec les doigts les restes d'un plat en sauce particulièrement savoureux et salissant, il découvrit ce qu'il cherchait, l'idée ingénieuse qui le sortirait d'affaire. Il mit dans ses poches le sachet qui lui restait et se mit à observer les passants avec acuité. Il fallait trouver une bonne âme, compatissante, assez aisé pour ne pas hésiter à payer une course en ambulance. Il laissa passer une douzaine de personnes, puis jeta son dévolu sur une femme assez peu modifiée, d'une quarantaine d'années, vêtue d'une robe ample et longue. Une adepte de quelque gourou, songea Mito, ou une nostalgique des hippies du XXe siècle. « Libertons !» cria Mito, assez fort pour qu'elle se retourne. « Je vous en supplie, arrêtez-vous rien qu'un instant pour m'écouter !» La femme regarda autour d'elle, puis s'arrêta, l'air un peu inquiet. « Je suis suivie à la salpêtrière pour ma jambe. Mais je suis un hors-réseau et je ne peux pas m'y rendre à pied. J'ai cruellement besoin qu'une bonne personne m'offre un trajet en ambulance. » « À la salpêtrière, dites-vous? Une fois là-bas, vous serez pris en charge ?» Elle regardait la jambe de Mito avec un dégoût mêlé d'effroi. « Je vous en prie, ce serait une merveilleuse action que vous feriez pour moi. » Le genre de booster de karma, si vous voyez ce que je veux dire. » La dame sourit, et Mito sut que le tour était joué. « Comment appeler une ambulance? Je n'ai jamais fait ça. Avec votre RV, vous vous connectez au service des ambulances volantes parisiennes. Vous demandez une voiture immédiate, si ça ne vous dérange pas. Nous sommes au 22 boulevard Ornano. » Elle effectua la manipulation nécessaire et se tourna vers Mito avec un sourire radieux. « Que Dieu vous bénisse, » dit Mito. La dame surprise lui demanda « Vous croyez en Dieu ?»«
Parfois oui, parfois non, mais quand je vous vois si solidaire, oui, j'y crois. »
Elle se rengorgea et repartit, souriante, délestée d'un petit paquet de crédits, mais infiniment satisfaite. Quelques minutes plus tard, Mito était installé comme un prince dans un VP ambulance qui le déposa en un tournement à la salpêtrière, juste en face du quai de Bercy. La douleur dans sa jambe était féroce, mais Mito se sentait comme un acrobate ayant réalisé l'un de ses meilleurs tours. Il était dommage de toujours devoir se passer de public, mais il avait érigé la débrouille au rang d'un art véritable et il en concevait à part lui une grande fierté. Il traversa péniblement le pont et trouva presque aussitôt ce qu'il cherchait. La péniche Loriflamme, qui paraissait flambant neuve, était amarrée un peu en amont. Comme tous les bateaux solaires, elle disposait de panneaux photovoltaïques sur le toit, ainsi que d'une énorme batterie stockée à la poupe, à côté du moteur. Elle était équipée d'antennes satellitaires et d'un puissant ordinateur de bord. En dehors de ces quelques détails, elle ressemblait à une pièce de musée, toute de bois verni et de cuivre rutilant, avec son nom peint en lettres criardes sur une sorte de blason. Il s'agissait de l'extérieur d'une simple péniche d'habitation, dont les amarres étaient couvertes de mousse et qui ne devait pas naviguer souvent. La passerelle pour monter à bord était fixée au sol, et la porte d'entrée latérale, close, portait un ancien heurtoir de fer forgé, en forme de tête de lion. Le quartier de Bercy était un lieu de passage, où les gens marchaient vite et ne flânaient pas, du moins pas du côté de la Seine. Mito regarda bien autour de lui avant de se risquer à saisir l'anneau dans la gueule du lion. Il n'entendait aucun bruit à l'intérieur et se résolvait à partir lorsque la porte en bois s'ouvrit avec un grincement inhabituel. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda un homme entre deux âges, qui portait des lunettes. Mito n'en croyait pas ses yeux. Cette porte en bois et maintenant des lunettes de vue, c'était comme s'il venait de franchir un portail temporel. « Je viens au sujet du fils d'Olympe, Jean Corville. » Il avait longuement médité ces paroles. La phrase d'attaque était extrêmement importante dans le milieu de la rue, où il s'agissait le plus souvent de convaincre en quelques secondes. L'homme le regarda de la tête aux pieds. « Je ne vois pas à qui vous faites allusion, » finit-il par dire posément, mais sans refermer la porte. « Vous semblez dans la plus grande nécessité, monsieur. Voulez-vous entrer vous restaurer ?» Mito eut l'air d'hésiter un instant. « Ma foi, mon brave, je ne vais pas cracher dans la soupe, » dit-il. Il emboîta le pas de l'homme à lunettes et se retrouva dans une longue pièce rectangulaire, organisée en différents coins. Il régnait là, Dieu savait comment, une atmosphère de feu de cheminée. Peut-être était-ce dû à la couleur particulière de l'éclairage, ou bien à tout ce cuir et à toutes ces boiseries. L'homme le fit asseoir dans un fauteuil club, sur lequel Mito ne put s'empêcher de glousser d'aise. « Dites-moi un peu plus sur ce qui vous amène. J'avoue ne pas avoir bien compris de quoi vous vouliez parler. » « Je vais vous apporter quelque chose de chaud. » Il s'éloigna dans le coin dévolu à la cuisine et prépara du thé dans une véritable théière ancienne. « C'est amusant chez vous, » dit Mito. « On se croirait des siècles en arrière. »« Oui, c'est une période que j'aime bien. Je m'y sens à l'aise. »«
Vous vivez seul ici ?»«
Oui, la plupart du temps. »«
Et vous vous appelez ?»«
Est-ce que cela importe ? Je suis l'étranger qui vous a ouvert la porte. Cela devrait suffire. »
« Vous êtes prudent, » remarqua Mito.
L'homme arrivait avec un plateau chargé de deux tasses de thé fumant.
« On me sert toujours partout à manger et à boire, partout où je vais, » constata Mito avec une certaine satisfaction. « C'est un bénéfice secondaire du fait d'être HR. Malgré l'indifférence profonde de la société, on arrive à glaner un peu de solidarité individuelle.
« Vous avez un problème à la jambe ?» demanda l'homme, en remarquant le pantalon retroussé au niveau des plaies.
« Ah oui, en effet, on ne peut rien vous cacher. Je disais donc que je venais au sujet de Jean Corville, le fils d'Olympe. »«
Et que vouliez-vous me dire sur ce monsieur que je n'ai pas l'honneur de connaître ?»«
Principalement qu'il va débarquer d'un instant à l'autre, accompagné d'une icône du self-art nommée Titania. »
L'homme à lunettes accusa une certaine surprise.
« Comment se fait-il que deux personnes que je ne connais pas se préparent à débarquer chez moi ?»«
Parce que les écumeurs leur ont donné le tuyau. »
« De plus en plus intéressant, » murmura l'homme. « Et vous êtes ?»«
Rien. Mon nom est personne. »
L'homme eut un petit rire.
« Nous sommes peut-être apparentés, alors. »«
Mais on m'appelle Mito dans la rue. Je suis HR. »«
Et pourquoi jouez-vous les messagers ?»«
Oh, pour tromper l'ennui, en partie. »« Pour récupérer ça et là quelques repas gratuits et quelques tasses de thé. » sans compter bien sûr que j'ai une certaine affection pour ce Jean Corville. »
L'homme à lunettes acquiesça d'un air bonhomme. Il saisit un Hervé d'une sorte particulière, comme Mito n'en avait jamais vu, et qui paraissait, si toutefois cela avait un sens, fait à la main, puis se mit en communication avec quelqu'un.
« Peux-tu me rejoindre chez moi ? » demanda-t-il de son ton très courtois et sans se présenter. « J'ai là un visiteur qui ne manque pas d'intérêt. »
Il raccrocha aussitôt, puis s'installa dans le fauteuil club qui faisait face à Mito et retira ses lunettes pour essuyer la buée causée par le thé.
« Vous ne trouvez pas ça embêtant, ces prothèses oculaires ?» demanda Mito. « Vous ne pouvez pas vous payer une opération ?»
L'homme chaussa ses lunettes d'un geste naturel et élégant.
« Non, je ne trouve pas cela embêtant, » répondit-il simplement.
« Où les avez-vous trouvées ?
Chez un antiquaire ?»«
Je les ai fait faire, à ma vue. »
Mito parut impressionné.
« Cela a dû vous coûter plus cher qu'une opération, alors ?»«
Sans doute, je ne me suis pas renseigné pour la chirurgie. »
« C'est très art, » dit Mito, « dans un sens. »«
Dans un sens. »
Il y eut un silence.
« Si vous voulez dormir, » proposa l'homme, « ne vous gênez pas. Le silence ne me dérange pas. »
Mito considéra cette option. Le moelleux du fauteuil, l'éclairage chaud, l'odeur du cuir et du vernis, le très léger roulis de la péniche, tout le portait à une certaine somnolence. « Vous n'auriez pas un antalgique par hasard ?»«
Mais si, bien sûr. »
L'homme se leva et lui apporta une pilule que Mito avala avec une gorgée de thé. « Je vais somnoler un peu alors, si ça ne vous dérange pas.
Je vous en prie. »
Mito se demanda s'il était très prudent de se laisser aller ainsi. Mais dans son existence précaire, il fallait prendre des décisions rapides, saisir les occasions quand elles se présentaient et accorder sa confiance à l'instinct. Cet homme avait l'air d'un intellectuel inoffensif et Mito, perclus de la fatigue des deux dernières journées, se laissa aller à une bienheureuse inconscience. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au quai de Bercy, Jean et Titania étaient méconnaissables. Leurs vêtements crasseux, pleins de terre, de graisse et de sang, auraient pu passer inaperçus sur le périph. Titania avait enduit sa peau et ses cheveux d'une huile de vidange noire, dont ils avaient trouvé une flaque dans un tunnel, et faisait songer, sauf pour ses yeux violets, à une divinité chthonienne ou à un golem de boue. Toute sa beauté semblait avoir disparu avec son éclatante blancheur. Elle n'avait pas attiré un seul regard durant le long trajet qui les avait menés jusqu'ici. Jean avait utilisé l'huile pour tracer des zébrures sur son visage et sur ses bras et ressemblait quant à lui à un hachère aguerri. Ils heurtèrent compulsivement le marteau à tête de lion et lorsque l'homme à lunettes leur ouvrit, Jean, devant l'expression d'effroi qui passa sur son visage, prit conscience de leur aspect.
« Excusez-moi, monsieur, je... »«
Jean ?» demanda l'homme, incrédule, en le dévisageant. Il y eut un moment d'hésitation, puis l'homme les fit entrer précipitamment, et, après avoir vérifié à la porte que personne ne rôdait dans les parages, il la referma avec soin.
« Le hachère ne mentait pas malgré son nom, » murmura l'homme.
« C'est bien toi. Tu te souviens de moi ?» Jean, épuisé et un peu abasourdi, scruta à son tour le vieux visage démodé qui lui souriait d'un air incrédule. Quelque chose lui était peut-être familier dans cette expression. Il ne l'aurait pas juré, cependant.
« Je ne sais pas, c'est très vague, » dit-il. « Vous connaissiez ma mère ?»«
Oui, et je t'ai rencontré deux ou trois fois lorsque tu étais petit. »«
Vous avez besoin de quelque chose ? Un thé ?
Une douche ?» demanda timidement Titania.
« Une douche, mais bien sûr, mademoiselle, bien sûr, suis-je bête, je n'y avais pas songé. »«
Eh, regardez qui voilà, » dit Mito en s'éveillant.
Il y eut pendant quelques minutes une assez grande confusion. Le vieil homme s'affaira autour de Titania, lui apporta des dissolvants pour l'huile et lui expliqua comment fonctionnait la douche à eau de la péniche, tandis que Jean et Mito se racontaient leurs exploits. On servit un nouveau thé, assorti de gâteaux, et alors que tous les quatre s'asseyaient pour parler enfin de ce qui les amenait à se retrouver, le marteau retentit une nouvelle fois. Titania échangea avec Jean un regard inquiet, mais leur hôte se leva très calmement et alla ouvrir sans se presser.
« C'est parfait, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Nous serons au complet comme cela. »
Le nouveau venu était un autre homme d'âge mûr, qui semblait très proche du premier. Peut-être étaient-ils frères, car ils avaient un certain air de famille. Ils échangèrent deux ou trois mots à voix basse et regardèrent du côté de Jean avec des sourires non dissimulés. Ils semblaient réellement heureux de le voir.
« Bien, » finit par dire le maître de maison, lorsque tout le monde fut installé. « Je vais commencer par les présentations. » Je suis Abdel, et voici mon frère Kamel. Mais nous nous appelons presque toujours par nos noms de dissidents. Je suis Danton, et Kamel est Robespierre. Ta mère était Olympe. Nous étions très proches tous les trois. » Jean se sentait étrangement ému. « J'ai déjà entendu parler de la dissidence, dit Titania. Et je sais que vos activités sont illégales, alors il faut qu'on vous prévienne. On est recherché par la police, très activement. Il se peut que les policiers débarquent à tout moment. » « Il n'y a rien d'illégal dans cette péniche, et puis... nous avons l'habitude de vivre ainsi, » dit tranquillement Danton. « Moi aussi, » dit Mito, « pas de problème pour moi. » « C'était simplement pour vous prévenir, Morgane Corp est à mes trousses. » Robespierre éclata d'un rire sombre. « Ah, cela nous fait un ennemi commun. » Titania sourit. Elle n'était pas habituée à ces visages authentiques, à ces traits accusés, à ces sourires aux dents imparfaites, à cette lumière chaude reflétée par le bois. Elle avait l'impression de se trouver dans un tableau ancien, avec des personnages historiques. C'était sans doute juste à cause de leur nom de code. « Vous avez maille à partir avec Morgane Corp ?»« Nous avons maille à partir avec toutes les multinationales qui dictent leurs lois, et celle-ci est particulièrement détestable. »« En quoi consiste la dissidence ?» demanda Jean. Danton soupira et sourit, comme si la question posée méritait une réponse fort longue. « Est-ce la question la plus urgente ?» demanda-t-il. Jean, Titania et Mito, les yeux fixés sur lui, acquiescèrent en même temps. Olympe nous a toujours dit qu'elle te laisserait en dehors de tout ça, et qu'elle ne te parlerait de ses activités que plus tard, lorsque tu serais en âge de faire un choix. Elle n'en a pas eu le temps, souffla Jean. Non. Une tristesse soudaine passa sur le visage des deux frères. Avec un peu de malchance, tu aurais pu ne jamais retrouver notre trace. Elle était si prudente. Elle m'a laissé une rémanence, avec les coordonnées d'une maison. Danton et Robespierre se regardèrent en souriant. Alors c'est là qu'elle pensait que nous nous retrouverions un jour. Ta mère a été arrêtée selon nos sources et elle est morte quelques jours plus tard. Jean se souvint du rapport du légiste. Vous ne croyez pas à une mort subite ? Non, dit Danton tristement. C'est ainsi que la plupart d'entre nous finissent. Nous ne sortons pas en vie des locaux de la police. Jean accusa le coup et se mit à respirer plus fort et plus vite. Pourquoi l'ont-ils arrêtée ? Elle travaillait sur une enquête dangereuse. Vous souvenez-vous du meurtre du juge Malfini ? Vous étiez jeune à l'époque, mais cela avait fait grand bruit. Malfini était un juge indépendant. Un dissident ? Non, simplement quelqu'un qui croyait encore à l'institution judiciaire. Et sur quoi enquêtait-elle exactement ? Je ne sais pas, elle avait repris le dossier du médicament Panacor, mais elle disait que si son enquête aboutissait, cela ferait vibrer le réseau et peut-être tomber Hillness. Hillness, j'ai déjà entendu ce nom-là, murmura Titania. Hillness et Morgan Corp ont beaucoup d'intérêts en commun, et notamment un laboratoire de recherche. Hillness est une industrie pharmaceutique. Quel partenaire plus naturel pour Morgan Corp ? C'est à ça que vous jouez ? Demanda Mito. Des enquêtes ? Rien de plus amusant. Nous n'avons pas de stratégie unique, pas de chef, pas d'organisation pyramidale. Chaque cellule fait ce qu'elle veut. Nous partageons seulement des valeurs, des informations et des coups de main quand la situation l'exige. Certaines cellules sont spécialisées dans les opérations coup de poing, d'autres dans la diffusion médiatique. Certains d'entre nous se contentent d'une forme de journalisme indépendant, comme Olympe. Certains utilisent leur talent de hacker. Vous travaillez avec les écumeurs ? Certains d'entre eux, certains d'entre nous. Ce sont des interlocuteurs occasionnels. Nos philosophies ne convergent pas toujours. Titania était rêveuse. Elle laissa la conversation continuer. Jean, Danton et Robespierre échangeaient des souvenirs et des informations sur Olympe, et cela semblait leur faire du bien à tous les trois. Elle se sentait sonnée. La douleur à la tête et à la nuque était encore très forte, et le sentiment d'être mutilée ne la quittait pas. Elle n'avait plus accès au réseau. Elle ne pourrait probablement plus jamais se modifier. Mais de ces débris d'elle-même, quelque chose d'inattendu était en train de se relever. Elle se voyait comme de l'extérieur, victime de Morgan Corp, personnage médiatique, avec des dizaines de milliers de courtisans, et le numéro personnel de Stéphane Locard. Son histoire, son personnage, pouvait être très utile à la dissidence. Elle observa Jean pour le sonder. Il parlait de sa mère avec animation. Ce qu'il découvrait sur elle l'enchantait et l'attristait à la fois. Il était évident que Jean était fait pour suivre ses pas. Les amis de sa mère étaient déjà les siens. Ses idées avaient déjà germé naturellement en lui et n'attendaient que de fleurir. Titania tourna les yeux vers Mito. Repu, les yeux brillants, toute son énergie retenue, il paraissait ne rien perdre de ce qu'il était en train de vivre. Qu'avait-il à laisser derrière lui? Les questions qu'il posait sur la dissidence de loin en loin étaient toujours des questions pratiques, techniques. Il était habitué à la clandestinité, comme il l'avait dit. Il avait une imagination débordante et il adorait l'action. Pourquoi ne sauterait-il pas sur cette occasion de redonner un sens à sa vie? Quant à elle, tout un faisceau de sentiments convergeait vers cet engagement. D'abord son amour pour Jean, mais aussi sa colère envers sa mère, envers Morgan Corp et tout ce qu'elle représentait. Son désir de vengeance, et peut-être, tout au fond d'elle, un désir plus obscur. Celui de se transformer à nouveau, d'épouser une nouvelle identité, peut-être la bonne, la dernière, celle qui correspondrait à ce qu'elle avait toujours cherché en vain. Elle ne pouvait plus modifier son apparence, mais quelle importance! Elle pouvait encore agir sur ce qu'elle était, sur ce qu'elle faisait, sur la trace qu'elle laisserait dans le monde. Titania avait la tête brisée, mais de cette blessure, elle pouvait faire une force et devenir un personnage subversif. Cela l'emplissait d'impatience, d'espoir et d'une sorte de joie violente qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le soir, lorsqu'ils se couchèrent dans l'une des cabines de la péniche, Jean et Titania parlèrent pendant des heures. Du passé, qui leur arracha leurs dernières larmes, de l'avenir, qui paraissait soudain plus brillant et plus pur. Ils s'étaient rencontrés et aimés dans une sorte de désespoir. Maintenant, ils se faisaient la promesse d'une existence pleine de sens, de risques et de victoires partagées, d'instants de bonheur volés. La force qu'ils sentaient couler dans leurs veines leur donnait le courage de tout affronter, depuis la clandestinité jusqu'à cette mort anonyme dans les locaux de la police. Ils ne passeraient pas leur vie à fuir, comme elle l'avait craint, mais à se battre. « Ce sera mieux que toutes les simulations 3D, » dit Jean en souriant. « De la vraie adrénaline, dans un cœur qui bat pour de vrai, » ajouta Titania. « Et pas de nausées !» Jean souriait sans discontinuer, amoureux et plein d'enthousiasme. Il se sentait stupide, mais n'en avait rien à faire. À Titania, qu'il sentait renaître, il offrit un poème, éclos comme une fleur nocturne. Le passé s'ouvrait là, émouvant, sur la scène, empli d'objets anciens et de senteurs perdues, et je n'osais entrer y déposer ma peine après avoir erré et pleuré dans les rues. L'arche était là, perdue et retrouvée, intacte, comme au jour mordoré d'une enfance lointaine, et la couleur de tous nos mots, de tous nos actes, semblait illuminée pour une mise en scène. Je t'ai sentie, reine noircie dans les douleurs, renaître à mes côtés, touchée par cette grâce et reprendre, tremblant dans l'air du temps qui passe, le flambeau des errants, fardeau des voyageurs. L'oriflamme à ton bras répandra ses lueurs sur mes pas amoureux qui sur les eaux s'effacent.